Avez-vous remarqué à quel point nous aimons appliquer la loi imprescriptible qui lie les causes aux effets? Tous, nous évaluons nos possibles en fonction des moyens dont nous disposons. Prenons un exemple bête. Une voiture lambda ne peut parcourir telle distance qu'en fonction du carburant qu'elle a dans son réservoir. L'idée qu'il puisse en être autrement nous est d'autant plus inconcevable que cette loi imprescriptible s'applique et se vérifie à chaque instant de nos quotidiens. Et pourtant, ces mêmes règles s'avèrent obsolètes dès lors qu'il s'agit de la vie chrétienne. Dieu ne se soumet pas à nos lois, même si elles sont logiques. Je me pose une question, et voilà ce que je me demande. Quelle évaluation des possibles a dû faire Moïse lorsque Dieu, s'adressant à lui, lui dit « Pourquoi cries-tu vers moi ? Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer sur la terre ferme. » Nous le voyons. La loi imprescriptible ici s'écroule. En effet, à ce moment-là, qu'y a-t-il comme carburant dans le réservoir de Moïse ? Rien. Et pourtant, il y a les versets 21 et 22 de ce même chapitre 14 de l'Exode. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il, le Seigneur, pas Moïse, mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer sur la terre ferme. Nous allons essayer de réfléchir ensemble ce matin sur le thème suivant. Dieu ne tient pas compte de nos manques. Et parfois même, il s'en sert. Nous suivrons quatre points. Premier point, dans certains cas, Dieu se débarrasse de nos réserves. Deuxième point, dans certains cas, Dieu se sert de nos manques. Notre troisième point aura un grand A et un grand B. Grand A, Dieu est pourvoyeur, il anticipe. Grand B, Dieu rend capable. Et notre quatrième point sera une petite histoire. Après quoi, nous conclurons. Premier point donc, dans certains cas, Dieu n'a que faire de nos réserves. Vous le savez, il existe des animaux qui ont cette extraordinaire aptitude à doubler ou plus leur poids en amassant des graisses, en les stockant dans leur corps, et nombre d'entre eux le font parce que viennent ensuite de longues périodes d'hibernation. Dans bien des cas, Dieu n'a que faire de nos réserves de gras spirituel. Il n'élabore pas ses plans, il ne fixe pas la hauteur de ses exigences en fonction de nos stocks, de nos réserves, mais plutôt en fonction de la dépendance directe et permanente que nous avons de lui. Souvenez-vous, dans le désert, les Israélites inquiets qui stockaient de la manne l'a trouvé corrompue et fétide dès le lendemain matin. Dieu exigeait qu'on trouva en lui une nourriture quotidiennement renouvelée, directe et sans réserve. Un des exemples éloquents de ce que Dieu peut faire des réserves qui nous tranquillisent et qui quelquefois nous poussent gentiment vers l'hibernation se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 18. Quelle est la situation? Elle est la suivante, ça fait 3 ans qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau sur la terre. 3 ans. Le prophète, devant tout Israël rassemblé, dresse un autel, entoure cet autel d'un vaste fossé, et après avoir sacrifié un taureau, il exige que le fossé soit rempli d'eau. Puisqu'il n'y a d'eau nulle part, il a bien fallu sans doute que chacun y aille de ses dernières petites réserves. Le verset 35 nous dit « L'eau coula autour de l'autel et remplit le fossé. » Après cela, Élie fait appel à Dieu et nous lisons 3 versets plus loin. Alors, le feu du Seigneur tomba, il dévora l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il assécha l'eau qui était dans le fossé. Pchut, évaporé. Au revoir, les dernières réserves. Mais que se passa-t-il donc après cette dramatique évaporation? Il se passa les versets 44 et 45. Un petit nuage s'éleva de la mer. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages. Le vent se leva et une forte pluie se mit à tomber. Le Seigneur n'a que faire de nos encombrements et de nos fatras, surtout lorsque nous sommes persuadés que nos survies dépendent d'eux. Avant de passer au point suivant, un court texte biblique plus explicite encore, il se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 et au verset 9, et Jésus envoie ses disciples en mission en leur disant ceci. N'emportez ni or, ni argent, ni monnaie de bronze pour mettre à la ceinture, ni sac pour la route, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. L'action de Dieu ne s'établit pas à l'aune de nos stocks. Deuxième point. Il arrive, lorsque Dieu le veut, qu'il se serve de nos manques. Le Seigneur passe outre nos ressentis. C'est ainsi que, parfois, lorsqu'il le décide, il se sert des découragés. Il se sert des submergés par la hauteur de la tâche, de celles qui font le constat désolé de l'épuisement de leurs réserves. Mieux encore, Dieu se sert parfois de celles et ceux qui se sont laissés engluer dans le piège du mépris de soi. Quelle estime de soi avait Sarah, la femme d'Abraham? Quel bilan de compétences, de faisabilité établissait-elle sur elle-même par rapport à l'idée de descendance? Et pourtant, depuis Sarah, quel peuple que celui d'Israël? Hébreux 11, verset 11. Sarah fut rendue capable d'avoir une descendance. Dieu se sert de nos manques. Ses plans ne rentrent pas nécessairement dans nos petits logiciels. Nous venons de dire quelques mots sur Sarah, mais qu'en est-il d'un certain Jonas ? Le Seigneur ne l'a déclaré opérationnel qu'une fois après l'avoir dépouillé de tout. Je vous la fais courte et volontairement triviale. Dieu s'est servi de Jonas une fois après l'avoir réduit, j'ose, à du vomi de poisson. Alors les âmes sensibles doivent être choquées, mais que ces âmes-là ouvrent leur Bible, et elles verront bien que c'est le verbe vomir qui est employé dans l'Écriture, et que c'est bien un poisson qui a vomi Jonas. Lorsque Jonas est vomi sur la plage, il est dans un dénuement total, il est dans un manque total. On pourrait dire qu'il est nu et cru. Songez donc, pas de carte bancaire, pas de portable, pas de réseau. Et pourtant, 120 000 personnes, excusez du peu, 120 000 personnes seront sauvées. Dieu se sert de nos manques. Avant que ne se produise la spectaculaire évaporation dont nous parlions tout à l'heure, vers qui le Seigneur envoie-t-il Élie le prophète ? Vers de riches nantis ? D'opulents propriétaires de greniers encore pleins ? Non. Un roi, chapitre 17, verset 8. Alors la parole du Seigneur lui parvint. Va à Sarepta. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. Lorsqu'il la trouve, lorsqu'il la rencontre enfin, quelle évaluation fait cette femme de ses propres ressources ? Je n'ai qu'une petite poignée de farine et un peu d'huile dans une cruche. Je ferai un gâteau et après quoi, mon fils et moi, nous mourrons. Vous souvenez-vous à ce moment très précis des paroles que le Seigneur met dans la bouche d'Élie le prophète. Verset 14, « Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. » Dieu se sert de nos manques. Peut-être que, telle la veuve de Sarepta, nous n'avons pas et depuis longtemps ressenti la pluie des bénédictions divines. Du moins, le croyons-nous. Ce qu'il reste de notre foi passée semble tenir dans le creux de la main. Ce qu'il reste de notre zèle passé ne répand qu'une vague odeur de rance comme un fond d'huile dans une jarre. J'ai déjà entendu dire « Je ne suis plus vraiment certain d'être chrétien. » Souvent, c'est quand je crois mon gras spirituel réduit à néant que Dieu m'envoie quelqu'un qui vient me demander quelque chose que je n'ai pas, ou en tout cas que je crois ne plus avoir. Quoi que nous recensions, quoi que nous dicte la loi imprescriptible qui lie les causes aux effets, Dieu se sert de nos manques. Il donne ce qu'il ordonne. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche ne se videra pas. Le troisième point comporte deux petits paragraphes. Grand A, Dieu anticipe deux points, il pourvoit. Alors sur ce sujet, les exemples bibliques sont pléthoriques. Il y a les incontournables. La manne dans le désert, l'eau du rocher d'Horeb, l'écaille, et j'en passe. Mais quelquefois, bien que ça ne soit pas explicitement écrit là-dedans, l'anticipation du Seigneur va se loger dans des endroits assez inattendus. Exemple. Il a bien fallu à un moment que Dieu choisisse un bélier pourvu de cornes suffisamment développées pour qu'il aille se les coincer dans les branches d'un buisson. Mais attendez, pas n'importe quel buisson, pas n'importe où, non. Un buisson tout près du lieu où Abraham allait dresser l'autel sacrificiel sur lequel il allait immoler son fils. À portée immédiate de vue. Au verset 7 et 8 du chapitre 22 de la Genèse, à la question de son fils, où est l'animal de l'Holocauste ? Abraham a répondu, Dieu voit lui-même quel animal il aura pour l'Holocauste. Dieu avait prévu, il anticipe, Dieu avait pourvu, c'est un pourvoyeur. Le deuxième sous-titre, grand B, Dieu rend capable. Dans le livre de l'Exode, l'Éternel appelle Moïse sur la montagne et va lui donner les instructions concernant la contribution à verser par les Israélites pour réaliser la tente de la rencontre. Pour réaliser cette tente, mais aussi tous les objets, tous les ustensiles qui s'y rapportent. À partir du verset 25 et suivant, Dieu, pour cette réalisation, établit des listes interminables avec des précisions et une exigence de perfection qui donne le vertige, et pour lesquelles, à vues humaines du moins, il n'y a chez ces pauvres Israélites pas l'ombre d'une compétence requise. Pourquoi ? Mais parce qu'il ne s'agit pas d'un peuple d'artisans, d'artistes ou de créateurs. Non, ce sont des éleveurs de bétail qui, depuis 4 siècles, ont été réduits à fabriquer des briques avec de la terre et de la paille. Or, pendant 7 chapitres, seul le mode impératif est employé. Tu feras, tu diras, tu prendras, tu exécuteras, etc. Dieu ordonne, il exige, il impose. Rien dans ces interminables listes, pas le moindre petit détail, n'est négociable. Prenons un exemple. On va prendre la Bible. Parlons du pectoral. Nous lisons 10 de versets. J'arrêterai parce que vous allez voir, ça peut être rapidement fastidieux. Je lis quelques dizaines de versets dans le chapitre 28, que Dieu, dans sa demande, est très précis. Tu feras le pectoral du jugement, ce sera un ouvrage d'artisan. Tu le feras de la même façon que l'éphod, d'or, de pourpre violette et rouge, d'écarlate et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur sera d'un empan. Tu y sertiras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. 2 points. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. 2e rangée, une escarboucle, un lapis lazuli, un diamant. 3e rangée, une opale, une agate, une améthyste. 4e rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Les pierres seront au nom des fils d'Israël. Il y en aura 12 d'après leur nom. Elles seront gravées comme des sceaux, chacun avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur en forme de corde tressée. Tu feras 2 anneaux d'or sur le pectoral. Tu mettras les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu mettras. C'est interminable. Songez que pour ces pauvres Israélites, il n'y a jamais eu de précédent. Qui donc va pouvoir se charger de ça ? Où sont les capacités, le savoir-faire ? Qu'y a-t-il dans le réservoir ? Ici, comme ailleurs, devant la hauteur des exigences divines, ne figurent que les manques de l'homme. Découvrons ensemble comment Dieu a anticipé la réalisation de ses projets, comment à l'avance il a déjà tout prévu en rendant capable. Et on ouvre à nouveau sa Bible, quelques chapitres plus loin, Exode chapitre 31, les 11 premiers versets. Exode 31, verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, « Regarde, j'ai appelé par son nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli du souffle de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes de travaux, pour concevoir des ouvrages, pour travailler l'or, l'argent, le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour faire toutes sortes de travaux. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. L'attente de la rencontre, le coffre du témoignage, l'expiatoire qui est dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le porte-lampe pur et tous ses ustensiles, l'autel de l'encens, l'autel des holocaustes et de tous ses ustensiles, la cuve et sa base, et les vêtements spéciaux, les vêtements sacrés pour Aaron, le prêtre, les vêtements sacerdotaux de ses fils, l'huile d'onction et l'encens aromatique pour le sanctuaire, ils feront exactement ce que je t'ai ordonné. C'est renversant quand même. Nous n'en sommes qu'à l'énoncé, et déjà, l'Éternel a rendu capable, en offrant les moyens d'exécuter à la lettre tout, absolument tout ce qu'il a exigé. Dieu dépasse nos manques, il anticipe, c'est un pourvoyeur, et contre toute attente, il rend capable. L'apôtre Paul a une formule choc pour résumer tout ça. Il dit aux Corinthiens, notre capacité vient de Dieu. Si nous ne devions retenir qu'une chose ce matin de tout ce qui est dit, il faut que ce soit cette formule choc. Notre capacité vient de Dieu. Quatrième et dernier point avant de conclure. Peut-être connaissez-vous cette histoire tirée d'un ancien conte chinois. Alors, imaginez une très longue parcelle rectangulaire très longue, mais vraiment très, très, très étroite. Elle est partagée, vous voyez, comme là, en son milieu, par un sentier qui définit une plate-bande à droite et une plate-bande à gauche. Imaginez des plate-bandes d'un mètre ou un mètre et demi. C'est très, très étroit. Un très vieux jardinier chinois avait sa maisonnette un peu en hauteur à l'un des bouts de ce jardin. Or, la source se trouvait à l'autre extrémité de cette étroite parcelle. Chaque jour, de bon matin, il accrochait au bout du bâton qu'il portait sur ses épaules deux cruches, une à droite, une à gauche, et il allait chercher l'eau à la source. Puis, une fois rempli, il faisait le chemin inverse pour rentrer chez lui. Or, il se trouvait que l'une des cruches était dans un mauvais état, toute cabossée, fendillée, percée de mille et un petits trous, de telle sorte qu'étant poreuse, elle avait perdu à chaque fois toute son eau avant d'arriver à la maison. Cela avait fini par la rendre infiniment triste et honteuse, au point qu'elle finit par s'adresser à son maître et lui dit « Oh mon bon maître, tu sais que depuis longtemps, je ne suis plus bonne à rien. Je ne suis même pas capable d'amener l'eau à la maison. Pourquoi t'obstines-tu jour après jour, matin après matin, à vouloir me remplir ainsi? Sépare-toi de moi, jette-moi, je suis devenu inutile. » À ces mots, le jardinier s'écria, « Mais que je me sépare de toi, que je me débarrasse de toi, non mais tu n'y songes plus, tu es beaucoup trop précieuse pour moi. » Vous connaissez tous l'hypersensibilité des cruches. Et je vous laisse imaginer dans quel état émotif le mot « précieuse » a mis notre pauvrette. Mais le jardinier continua en disant « Depuis que je me sers de toi, je plante tous mes semis et mes plantes fragiles du côté où je te porte au retour. Ainsi, lorsque chaque matin je reviens à la maison, les gouttelettes qui s'épanchent de toi comme une pluie fine les arrosent exactement comme je l'ai prévu et exactement à la hauteur de leurs besoins. C'est pourquoi tu m'es précieuse et c'est pourquoi je ne t'abandonnerai jamais. » Conclusion. Notre Père Céleste a dit à l'apôtre Paul une formule en six mots, et je vous invite chacun et chacune à vous l'approprier individuellement ce matin. Et évidemment, cela vaut pour moi. En tout premier lieu, Dieu a dit « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Vous savez, nos pauvretés n'échappent pas au Seigneur. Alors qu'il observait des gens faisant l'offrande, Jésus voit passer de très riches donateurs. Puis survint une pauvre veuve qui dépose quelques petites piécettes. Voici ce que dit Jésus. Cette pauvre veuve a mis plus que tous, car tous ont mis de leur abondance, mais elle, elle a mis de son mal. dit à Moïse, étends ta main sur la mer et fends-la. Alors Moïse étendit la main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer et la mit à sec. À celui qui par son souffle dégage les chemins de tous les possibles, à celui qui par son souffle établit des voies improbables dans l'océan de nos incapacités, à lui de tout notre cœur, cet hommage tiré de l'épître à Timothée, au roi de tous les temps, impérissable, invisible, seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais. Amen. Pour prolonger ce temps de louange,